Les Années-Lumière, édition du 28 mars 2010. Et non, l'histoire de la fin des dinosaures n'aura jamais de fin. Il y a une autre suite dans cette histoire de fin. Bonjour, ici Yannick Villieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette édition, elle commence avec vous, Gaëlle Lucia Berdoux. Vous allez nous raconter une histoire non pas de fin, mais de début.
Des chercheurs ont observé, Yannick, les débuts d'une galaxie ponctuée d'un véritable feu d'artifice de naissance d'étoiles.
Merveilleux. On passe ensuite à vous, Hugues de Roussan, et à cette histoire sans fin.
Oui, cette histoire, c'est celle des dinosaures qui ont disparu il y a 65 millions d'années. Et toute la question, c'est de savoir comment. Y a-t-il une seule cause ou plusieurs? Le débat n'est pas terminé.
Nous aurons ensuite le courrier des Années-Lumière. Une question sur l'hélium-3 de la Lune. Puis la chronique, la docteure Marie-Dominique Beaulieu va nous parler de l'excès de consommation de sel. Deuxième heure, Chantal de Srivastava, on parle beaucoup de troubles d'apprentissage. La science s'y intéresse, mais est-ce que l'école s'intéresse à ce qu'en dit la science?
On peut dire, Yannick, que le passage de la science à l'acte est parfois ardu dans les salles de classe, mais quand on s'en donne la peine, les résultats sont là.
Et après le petit journal de la science, je vais vous emmener au cinéma pour voir un documentaire passionnant sur la variole à Montréal, en 1885 et aujourd'hui. Et nous finirons avec l'auteur de la semaine, Hugues, c'est vous qui allez le recevoir.
Il s'agit de Guy Gauthier qui a écrit « Secret d'ossement ou la science au service des énigmes de l'histoire » paru aux éditions EDP Sciences.
Mais pour commencer, une galaxie pleine de pep. Oui, pleine de pep, parce que c'est une véritable poussée de croissance d'étoiles, une sorte d'éruption cutanée galactique qu'ont découverte des chercheurs européens et américains en regardant dans leur télescope. Une découverte qu'ils ont faite dans une galaxie encore inconnue, Gaëlle. Encore une galaxie, j'imagine, avec un nom très poétique, n'est-ce pas?
Dans le mille, Yannick, elle s'appelle SMMJ2135-0102.
Romantique.
Vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir. Mais c'est le nom d'une galaxie en pleine puberté. Une puberté qu'on observe aujourd'hui, mais qui s'est produite il y a très longtemps, il y a 10 milliards d'années. 10 milliards d'années, c'est le temps que la lumière de cette galaxie a mis pour parcourir le chemin qui la sépare de la Terre. Et c'est donc une image vieille de 10 milliards d'années que les astronomes ont vue dans leur télescope. Elle est donc cette galaxie à 10 milliards d'années-lumière de la Terre, autant dire difficile à observer, même avec le radiotélescope qu'ont utilisé les auteurs de cette découverte, le télescope APEX, qui est installé dans les Andes, au Chili. En fait, c'est tellement difficile de voir une galaxie comme celle-là qu'ils l'ont découverte par hasard. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils regardaient un amas de galaxies qui est un peu plus proche de nous, celui-là, et ils ont aperçu derrière cet amas, cette autre galaxie. Tout ça grâce à un effet qu'on appelle l'antigravitationnel, c'est-à-dire que la très grande masse de cet amas de galaxies qu'ils observaient au départ a fait dévier la lumière émise par la galaxie derrière lui. C'est un phénomène physique qui est tombé à point, on peut le dire. On va entendre là-dessus les explications de l'un des co-auteurs de cette découverte, l'astronome Carlo de Broek de l'Observatoire européen austral.
L'AMA est vraiment un outil, c'est une sorte de télescope cosmologique qui nous aide et qui pourrait dire que c'est un télescope qui nous a été planté dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment une bonne chance qu'on a cet AMA pour amplifier toute la lumière qui vient de derrière et qui nous permet d'étudier des galaxies qui sont beaucoup plus faibles que normalement. Sans cet amas, on ne pourrait pas les détecter, ils seront trop faibles.
Et comment cette amplification se produit-elle?
la masse, il déforme l'espace même, donc la lumière qui vient de derrière l'amas, donc de l'autre côté. Il est un peu courbé par la déformation de la grande masse de l'amas, qui est vraiment une accumulation de plusieurs galaxies et de gaz autour. Donc c'est une concentration de masse importante et que ça va déformer le champ de la lumière qui passe à côté. Ça nous fait en fait vraiment le même effet qu'une lentille qu'on peut avoir en verre sur Terre, mais ça fait une lentille qui est faite directement par l'espace même.
Donc c'est vraiment comme une lentille dans l'espace et c'est une lentille puissante?
C'est une lentille très puissante. Ça nous amplifie la lumière d'un facteur 32.
D'un facteur 32?
32,
donc un
oui.
Bon télescope qui s'est ajouté au vôtre.
C'est un très grand télescope parce que normalement les amplifications qu'on obtient par ces lentilles, c'est d'un facteur de 2 à entre 2 et 10, mais facteur 32, c'est vraiment extrêmement élevé.
L'astronome Carlos de Broek, qui a donc pu observer cette galaxie très lointaine, très vieille aussi, mais néanmoins très active.
Très, très active, en particulier en termes de formation d'étoiles, comme on le disait tout à l'heure. C'est ce que les chercheurs ont décrit dans un article publié cette semaine dans la revue Nature. Il y a dans cette galaxie des régions, ils en ont observé 4, où la formation d'étoiles est tellement productive que les scientifiques les comparent à des nurseries ou des pouponnières d'étoiles,
ah, oui,
si
oui.
vous voulez, avec des centaines d'étoiles qui naissent chaque année, ou plutôt naissaient chaque année, parce que, je le répète, c'était il y a 10 milliards d'années. Uh-huh. Et ces régions de production stellaire, ils ont pu les voir en observant les ondes dites submillimétriques qu'elles émettent, c'est-à-dire des ondes de longueur très, très courte, qui permettent de percevoir ou de voir les rayonnements émis par la poussière qui est produite lors de la naissance de ces étoiles. À nouveau, on entend les explications de Carlos de Broek.
Ce qu'on a trouvé, c'est qu'avec cette émission qui se trouve dans le submillimétrique, c'est des rayons où on voit un peu l'émission par la poussière. Donc si on regarde ça avec nos yeux, dans l'optique, par un télescope normal qu'on peut regarder avec les yeux, on ne verra pas cette lumière parce qu'elle est obscurcie par la poussière.
Mais on ne verrait rien.
Mmh. Elle est réémise, donc la lumière qui est absorbée par la poussière est réémise dans son longueur d'onde submillimétrique. Donc ça nous permet de regarder où cette obscuration réémet toute la lumière. Et ce qui est important de regarder ça, c'est que cette réémission et cette poussière est produite par les étoiles jeunes qui sont en train de se former. Donc si on observe cette obscuration et cette émission de la poussière, on voit là où se forment les étoiles.
Alors pourquoi justement une étoile qui émerge ou qui naît produit-elle autant de poussière?
C'est parce que le gaz qui forme les étoiles est ensuite consommé, on pourrait dire consommé par la jeune étoile, et ça produit la poussière qui est ensuite éjectée par les étoiles. Et donc cette poussière qui est formée dans les jeunes étoiles va ensuite les obscurcir quand on regarde de l'extérieur. Et ce qu'on a trouvé, c'est que dans les détails de cette galaxie, il y a vraiment beaucoup de formations d'étoiles d'un facteur 250 plus élevé. Donc il y a 250 étoiles par année qui sont formées dans cette galaxie. Donc c'est extrêmement élevé, c'est vraiment c'est 250 fois plus que par exemple dans notre galaxie.
Donc dans notre galaxie par exemple, il y a à peu près une étoile qui naît chaque année, alors que dans celle que vous avez observée, c'est 250 par an?
Exactement. Donc c'est vraiment cette galaxie encore, vu qu'elle est si distante, l'univers était encore très jeune. Donc à un certain moment, la galaxie doit être formée. Et donc là, on a regardé le moment dans l'histoire de l'univers où cette galaxie était vraiment en train de former la plupart de ces étoiles. Donc maintenant, à notre temps de notre galaxie, la plupart des étoiles sont déjà formées. Mais là, on a pu regarder le moment où ces étoiles, la plupart de ces étoiles ont été formées. Donc c'était l'univers était beaucoup plus actif il y a 10 milliards d'années que maintenant.
Est-ce que vous vous attendiez à autant d'activité?
Autant. On avait vu un peu d'autres observations, avaient dit qu'il y a peut-être autant, mais on pensait que c'était beaucoup plus étendu, donc que c'était sur des grandes échelles. Et maintenant, ce qu'on a pu voir avec amplification, que cette formation d'étoiles très élevée se trouve vraiment dans des endroits très condensés, donc c'est vraiment beaucoup plus dense et des petits endroits où les étoiles se forment, c'est pas toutes dans la galaxie en même temps, c'est vraiment des petits endroits à la fois.
Est-ce que ça veut dire ce que vous avez observé dans cette galaxie que vous voyez telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années? Est-ce que ça signifie que notre galaxie, il y a 10 milliards d'années, avait peut-être un taux de création d'étoiles aussi élevé, 250 par année?
C'est difficile de dire que notre galaxie a été exactement la même par la même période, mais il est clair qu'en étudiant les galaxies très distantes de 5 à 10, voire même plus, milliards d'années, qu'il y avait beaucoup plus d'activité, donc aussi notre galaxie, il y a 10 milliards d'années, aurait formé beaucoup plus de galaxies qu'en ce moment. Donc peut-être pas 250, mais quand même, j'estime de l'ordre de 50 au moins, ou peut-être 100, mais 250, c'est avec l'état de notre connaissance en ce moment, c'est vraiment très élevé, surtout dans des régions si denses.
Et qu'est-ce que vous allez faire de ces données-là dans le futur? Quelles sont les avenues de recherche que vous envisagez?
Ces données nous permettent vraiment de détailler, de regarder les choses en plus en détail. Donc, en plus, il y a de nouveaux télescopes. Surtout, il y a un télescope qui se trouve juste à côté du télescope APEX où on avait fait la découverte, qui s'appelle ALMA. Et c'est une grande collaboration internationale. Donc, il y a l'Europe, le Japon, les États-Unis et le Canada qui participent là-dedans. Et avec ce télescope ALMA, on pourrait regarder encore plus en détail. Donc, on pourrait regarder encore des détails beaucoup plus fines que ça. Donc, on pourrait même résoudre ces régions où se forment les étoiles et regarder encore un facteur 10 plus en détail qu'on a pu faire en ce moment. Donc, on pourrait vraiment étudier, pas étoile par étoile, mais vraiment les détails de ces régions de formation, et ça nous permettra vraiment de détailler toutes nos théories, comment les étoiles et les galaxies sont formées.
Carlos De Bruyck est astronome à l'Observatoire européen Austral, et on imagine qu'il en reste encore beaucoup à découvrir sur la formation de ces étoiles et de ces galaxies, Gaëlle.
Oui, surtout si on en croit une autre étude parue dans Nature cette semaine, publiée, elle, par d'autres chercheurs de l'Observatoire européen Austral, qui conclut qu'avec les technologies et les méthodes de détection actuelles, on échappe, ou on reste aveugle, si vous voulez, à peu près les 9 dixièmes des galaxies qui existent dans l'univers lointain.
Du pain sur la planche.
Il en reste à faire.
Oui, merci beaucoup, Gaëlle.
Je vous en prie.
Ici Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les années-lumière avec Yannick Villedieu.
Il y a eu 6 extinctions massives depuis l'apparition de la vie sur Terre, dont celle du Crétacé tertiaire il y a 65 millions d'années, qui a entraîné, entre autres, la disparition de la moitié des formes de vie sur Terre, dont les dinosaures. Le règne aux dinosaures prenait fin après, bon, c'est quand même pas mal, 160 millions d'années, c'est bien. Le responsable, un astéroïde de 15 km de longueur qui est venu percuter la Terre dans la province actuelle du Yucatan au Mexique. C'est du moins la conclusion d'une équipe internationale de 41 chercheurs qui ont publié au début du mois les résultats de recherche dans le magazine Science. Une conclusion, cependant, Hugues de Roussan, qui n'est pas partagée par tous, évidemment.
Non, pas par tous, Yannick. Il y a d'abord donc cette étude internationale qui a analysé des données recueillies pendant 20 ans. Et sa conclusion, eh bien, c'est l'astéroïde du Chicxulub qui s'est écrasé dans la province actuelle du Yucatan, qui est le grand responsable de la disparition des dinosaures. Mais pour comprendre vraiment l'impact de ce gigantesque astéroïde sur la croûte terrestre, je vous propose d'écouter Éric Robin, qui a participé à la recherche. Éric Robin est paléontologue et il travaille au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au Centre national de la recherche scientifique.
Vous avez un objet qui fait en volume, en masse, en taille, trois fois donc le Mont Blanc, hein, le Mont Blanc presque 5 km. Donc vous avez un objet qui arrive à une vitesse de l'ordre de 20 km par seconde. Donc en l'espace de quelques secondes, il franchit toute l'atmosphère et il vient percuter quelque part au nord-ouest du Yucatan le sol. Pénètre dans la roche jusqu'à à peu près 30 km de profondeur et creuse un cratère de 200 km de diamètre. L'énergie libérée au moment de l'impact, 10 milliards de bombes atomiques. La boule de feu qui est produite dépasse en luminosité plus de 100 fois la lumière du soleil. Cette boule de feu, avec une température au cœur de plusieurs dizaines de milliers de degrés, va s'expandre très très rapidement. Dans un rayon d'environ 1500 km, tout ce qui est vivant est carbonisé immédiatement. Et ça, c'est dans, je dirais, la première minute qui a suivi l'impact. Vous avez un souffle ensuite qui va porter à peu près jusqu'à 3000 km de distance et qui est capable de coucher les arbres, de détruire, s'il y avait eu des immeubles à l'époque, eh bien toute construction. Et puis, l'endroit où il a tapé, eh bien c'est juste à la pointe de la péninsule du Yucatan, donc dans le golfe du Mexique. Et donc, vous allez avoir un gigantesque tsunami qui va se déplacer avec une vague d'à peu près 2 km de haut, à la vitesse de 500 km/h, et qui va venir balayer toutes les côtes, remonter presque jusqu'au Canada. Donc ça, c'est, je dirais, ce tsunami dans les heures qui ont suivi.
C'est une image apocalyptique que vous décrivez là.
C'est apocalyptique. Hein. C'est quelque chose qui s'est réellement passé.
Mmh.
On a toutes les traces, toutes les évidences, on a le cratère qui est parfaitement bien daté, on a cette séquence d'événements enregistrée dans les sédiments. Donc ça, on sait que ça s'est passé. Ensuite, il y a toutes les retombées, parce qu'il y a toute cette matière, toute cette poussière qui repart dans l'atmosphère. Il y a une grosse partie du projectile, tous les débris qui vont repartir dans l'espace. On estime qu'à peu près 25% de la matière du projectile est repartie dans l'espace. Et tout le reste qui va repartir et qui va partir sur des trajectoires balistiques et qui va retomber partout sur Terre. Vous avez même des impacts secondaires éventuellement, mineurs hein, bien sûr, qui peuvent avoir eu lieu. Et puis tout ce nuage qui va ensuite se disperser lentement et englober toute la Terre. Et là, c'est quelque chose qui peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Avec bon une Terre qui est, je dirais, dévastée, empoisonnée. On a eu injecté dans l'atmosphère des gaz, notamment des sulfates, qui vont refroidir principalement la planète. On estime une dizaine de degrés à peu près, et ça peut durer à peu près une dizaine d'années, jusqu'à ce que ces sulfates soient éliminés de l'atmosphère. Mais à ce moment-là, ils sont éliminés en se combinant avec la vapeur d'eau. On va avoir des pluies acides très intenses qui vont acidifier le sol, acidifier les océans. Et donc là, on a un effet qui devient planétaire. C'est-à-dire de quelque chose qui est local, enfin local,
on 3000 s'entend.
Km de destruction, c'est quand même un peu plus que local. Hein. Ça a la potentialité de détruire un continent entier rien qu'avec l'impact. Mais c'est planétaire parce que justement, il y a tous ces débris, toute cette poussière, tout ce nuage qui va se développer, qui va englober la Terre.
Éric Robin est paléontologue au Centre national de la recherche scientifique.
Et Yannick, malgré l'ampleur de ce cataclysme dont on vient d'avoir une bonne description, la vie sur Terre ne s'est pas arrêtée, elle a continué. En fait, 50% des formes de vie ont survécu, dont les mammifères, la preuve, nous sommes là. Et par contre, les dinosaures, eux, ont eu beaucoup moins de chance.
Les animaux qui vont pouvoir s'en tirer, finalement, c'est principalement les petits, qui sont capables de se nourrir d'abord de très peu, qui vont, d'une part, qui peuvent se planquer déjà dans les premières minutes, les premières heures qui suivent l'impact. Et puis ensuite, je dirais qu'ils peuvent effectivement survivre parce que leur besoin en nourriture est relativement minime. Mais c'est vrai que des animaux, surtout des animaux gigantesques comme les dinosaures, n'avaient pas cette possibilité ni de se planquer, ni de pouvoir se nourrir des quelques racines et autres plantes qui pouvaient subsister après l'impact.
Est-ce qu'on peut dire en combien de temps c'est arrivé? En une saison, en quelques années, en l'espace de quelques minutes?
La disparition des espèces, vous voulez dire?
On va parler des dinosaures, parce que les dinosaures, ça frappe l'imagination.
Bah, les dinosaures, le problème, à la différence d'autres espèces dont on a un enregistrement quasi continu dans les sédiments, les dinosaures vivaient sur les continents. Et ce qui vit sur les continents, c'est très difficile d'avoir un enregistrement continu. Donc on a, en fait, je dirais, par rapport à une vidéo où on peut suivre un film du début à la fin, là, c'est plutôt un diaporama avec des photos et de différents instants, de différentes périodes de la vie des dinosaures. La dernière trace de pas enregistrée de dinosaures se situe 30 cm sous la fameuse limite, c'est-à-dire le niveau qui est marqué par l'impact avec les traceurs d'impact. Donc ce qu'on peut dire, c'est que 30 cm, ça représente quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'années. Eh bien, quelques dizaines de milliers d'années avant cet impact, on sait que les dinosaures couraient encore à la surface de la planète, donc vivaient encore, ils existaient. Parce qu'à partir du moment où on a des traces de pas, ça veut dire qu'il y avait de nombreux dinosaures. Et puis après, on n'a plus aucune trace de ces animaux.
Donc on peut très bien imaginer qu'en l'espace de quelques semaines, tous les dinosaures sont morts parce qu'ils n'avaient plus rien à manger?
Très rapidement, je dirais que ça a peut-être pu durer quelques années, c'est possible. Moi, je pense que ça peut être beaucoup plus rapide, surtout pour des animaux qui n'ont plus rien pour se nourrir. Vous savez que, bon, un être humain, si vous le privez de nourriture, je pense qu'il peut tenir peut-être un mois s'il a de l'eau. Ensuite, je pense qu'il va disparaître très rapidement. Donc, je pense que ces animaux ont disparu très vite. Au contraire, par exemple, des crocodiles qui existaient à l'époque et qui ont franchi cette limite, mais qui ont cette capacité de pouvoir rester sans nourriture pendant plusieurs mois. Mmh. Et de se nourrir aussi de matière morte. Donc tous les animaux, et ça c'est aussi un autre constat, tous les animaux, ce qu'on appelle les nécrophages, qui sont capables de se nourrir de matière morte, eh bien, passent bien mieux la limite que tous les animaux qui ont besoin de matière fraîche.
Éric Robin, donc, du CNRS. Alors, on l'a dit en ouverture, Hugues, cette thèse de l'astéroïde seul, responsable de la disparition des dinosaures, donc, cette thèse-là, elle n'est pas partagée par tout le monde. Certains croient plutôt que l'astéroïde du Chicxulub, donc au Mexique, n'est que le dernier clou dans le cercueil, si on peut se permettre. D'autres des éléments, donc, auraient préparé le terrain de cette extinction.
Oui, il y en a qu'à peine deux semaines après l'apparition dans Science de l'article sur l'astéroïde, les médias ont rapporté les résultats d'une autre étude internationale qui conclut cette fois que l'astéroïde n'est en fait que le dernier événement d'une succession d'événements de grande envergure qui ont fait disparaître les dinosaures. Alors, le premier élément, c'est la baisse du niveau des océans. On écoute Michael Prowse, paléontologue et chercheur à l'Université libre de Berlin.
Generally, we can see from our new data that there are massive climatic changes.
L'analyse de nos données nous montre qu'un million d'années avant l'impact de l'astéroïde, le niveau des océans a augmenté de façon considérable. La Terre a traversé par la suite une période d'instabilité climatique qui s'est traduite par une succession de refroidissements et de réchauffements des températures. Ces variations ont augmenté en quantité et en importance au fur et à mesure qu'on approchait de l'impact de l'astéroïde. L'impact est survenu au moment d'un refroidissement du climat qui a été suivi par un lent réchauffement des températures qui a duré 300 000 ans.
Was the culmination at the actual KPG boundary.
Alors, Hugues, vous avez parlé d'un premier élément, donc le deuxième.
Eh bien, ces variations dans le niveau des océans et au niveau du climat, eh bien, ça s'est déroulé en même temps qu'une intense activité volcanique dite du Deccan en Inde. On écoute à nouveau Michael Prowse.
The Deccan volcanism is about the same time, very close to the boundary.
Il faut aussi tenir compte des activités volcaniques dites du Deccan en Inde, qui ont commencé un million d'années avant l'impact de l'astéroïde, à l'époque où la Terre subissait une montée importante du niveau des océans. Ces éruptions volcaniques ont atteint leur sommet au moment de l'impact de l'astéroïde. Bien sûr, l'astéroïde a contribué à la disparition des dinosaures et aux perturbations climatiques qui ont suivi, mais il a fallu attendre encore 300 000 ans avant que l'extinction massive ne survienne, entraînant la disparition de 50% des formes de vie sur Terre.
Alors Hugues, la grande question, les arguments là, sur lesquels s'appuie l'équipe de Michael Prowse là, pour appuyer la thèse en question, c'est quoi?
Eh bien, les réponses se trouvent dans l'analyse des sédiments, mais pas n'importe quel sédiment, Yannick. Ce sont les sédiments marins qui seuls peuvent apporter une réponse, selon Michael Prowse. On l'écoute à nouveau.
The dinosaurs are in majority terrestrial animals, you know. Of course, there are also some marine saurians too.
Les dinosaures sont surtout des animaux terrestres, et c'est difficile de trouver des fossiles dans les couches sédimentaires terrestres qui sont minces et pauvres à cause des effets de l'érosion. Ces couches sont en quelque sorte incomplètes. Donc, le fait qu'on n'ait pas trouvé de fossiles de dinosaures après l'impact de l'astéroïde ne prouve pas qu'ils aient disparu rapidement d'un seul coup. Pour essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, il faut analyser les sédiments marins qui sont beaucoup plus riches et qui s'empilent par couches successives les unes sur les autres. Nous avons procédé à des tests au Texas. Ils nous ont montré la présence en grande quantité de microfossiles pendant une période de 300 000 ans après l'impact de l'astéroïde. C'est la preuve que l'extinction massive du Crétacé tertiaire ne s'est pas faite de façon brutale.
Alors l'hypothèse donc d'un astéroïde qui vient percuter la Terre, ça a été soulevé pour la première fois quoi, il y a une trentaine d'années à peu près.
Oui, une trentaine d'années.
Et ça avait, bon, depuis ça a suscité bien des débats, bien des passions hein, entre les spécialistes. La publication dont on a parlé en début de reportage de l'étude sur l'impact de l'astéroïde de Chicxulub dans le Yucatan, ça devait en principe clore le débat. Puis en fait, ça ne fait que le relancer, si je comprends bien.
Oui, en tout cas, le débat n'est pas clos, Yannick. Il y en aura tant qu'il y aura des chercheurs qui avanceront de nouvelles théories pour tenter d'expliquer la disparition des dinosaures. Éric Buffeteau, celui qu'on surnomme en France le père des dinosaures, est directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et il a son idée.
Tout porte à penser que l'astéroïde est la cause majeure. Il faut bien voir aussi que c'est pas une démarche très scientifique de chercher des causes compliquées quand une explication simple peut suffire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tendance chez certains scientifiques à partir du principe que forcément la disparition des dinosaures et puis plus largement la grande extinction qui s'est produite à cette époque, c'est quelque chose qui doit avoir des causes complexes. Mmh. Et je pense que c'est une démarche qui est l'inverse de ce que l'on doit faire dans la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on ne part pas du principe que quelque chose est compliqué. On essaie d'abord de trouver des explications simples. Et ensuite, seulement si ces explications ne suffisent pas et s'avèrent ne pas pouvoir rendre compte du phénomène, à ce moment-là, on cherche quelque chose d'un peu plus compliqué avec des causes multiples. Mais si l'explication par une cause simple est suffisante, c'est complètement inutile d'aller en chercher d'autres.
Est-ce que ça veut dire que c'est aux gens qui pensent qu'il y a plusieurs causes d'établir la rigueur scientifique de leurs avancées?
C'est à eux de montrer que l'impact d'astéroïdes ne suffit pas à expliquer ce que l'on constate quand on regarde les roches et les fossiles au moment du passage du Crétacé au Tertiaire. Il y a une théorie qui est celle de l'impact d'astéroïdes étant la cause de bouleversements écologiques, disons à l'échelle mondiale, qui provoquent des extinctions. Bon, c'est une théorie qui est étayée par des faits qui sont très nombreux, qui donc est fondée sur des observations, qui permet d'expliquer, à mon avis, la majorité des faits qu'on constate à cette époque-là. Maintenant, si on n'est pas satisfait de cette explication, il faut expliquer pourquoi et apporter des arguments solides pour pouvoir dire, eh bien non, ça ne suffit pas ou ça n'explique pas les faits observés. À mon avis, on peut s'attendre à ce que le débat continue encore. Ce qui peut se passer, c'est que, au fil du temps, le nombre des opposants à cette idée de l'astéroïde et de son rôle dans les extinctions, le nombre des opposants diminue graduellement pour devenir finalement très, très faible.
Éric Buffeteau, du Centre national de la recherche scientifique en France.
En terminant, je dirais que le débat va aussi se poursuivre dans la population. Qui ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qui nous arriverait à nous, les êtres humains, si la Terre était à nouveau frappée par une catastrophe de cette échelle? Est-ce que l'être humain pourrait survivre? Et en tentant de répondre à la question, on tente également peut-être de répondre à nos angoisses.
Merci beaucoup, Hugues.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, à venir en deuxième heure, les troubles d'apprentissage touchent 15% de la population.
Le trouble d'apprentissage est un peu, pour moi, comme un souffle au cœur. Quelqu'un qui va avoir une malformation de l'aorte, qui pourra, oui, faire du jogging, être en forme, faire de l'activité physique, pourra courir un marathon, mais ne sera peut-être pas en première place de ce marathon-là. C'est une limite physiologique réelle. C'est pas parce que le jeune veut pas ou qu'il est entêté.
Ding-dong, le facteur sonne à la porte.
Bonjour, mon nom est Louis Héon, j'habite Montréal. Ma question est relative au film Moon, dans lequel on parle d'exploitation de l'hélium-3 pour en générer de l'énergie en faisant de la fission nucléaire. Alors, j'aimerais avoir des éclaircissements au sujet de ça. Et je me demande même ce qui serait vraiment rentable de faire une exploitation de cette envergure-là sur la Lune. Merci beaucoup et à bientôt.
Alors, ce film Moon, auquel fait référence M. Ehom, met en scène un humain qui vit seul sur une base lunaire où il exploite un gisement d'hélium-3 pour produire de l'énergie sur Terre. Alors, s'agit-il de vraie science ou de pure fiction? C'est ce que Chantal Srivastava a demandé au physicien Jean-Marc Hanet de l'Institut de recherche sur la fusion magnétique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il est basé, ce monsieur, à Cadarache, en France, où il collabore au grand projet international ITER, ce réacteur thermonucléaire qui doit commencer ses expériences au cours de la décennie qui vient.
Alors commençons, monsieur Hanet, si vous le voulez bien, par faire le béaba de l'hélium-3. Qu'est-ce que c'est? Où le trouve-t-on et est-ce qu'il y en a beaucoup?
Alors, l'hélium-3, c'est une forme rare de l'hélium. En fait, son noyau n'a qu'un neutron, alors que l'hélium-4, plus lourd, en a deux. Et l'hélium-3 ne représente que quelques centièmes de pourcent de l'hélium qui existe dans l'univers. Il n'y en a quasiment pas sur la Terre. Par contre, il y en a sur la Lune et dans les atmosphères des planètes géantes gazeuses du système solaire. Les réserves lunaires sont estimées à peu près à 1 million de tonnes d'hélium-3. Disons qu'on a accumulé tout cet hélium-3 sur la Lune qui est bombardé par les vents solaires. Et donc, c'est ce qui a permis d'accumuler ces grandes quantités d'hélium sur la Lune.
Et il est enfoui sous forme de gaz, c'est ça?
Alors oui, qui est en fait absorbé dans de la régolithe, hein, une espèce de matière qui couvre la surface de la Lune. Et il y en a à peu près sur quelques mètres, hein, de régolithe qu'on pourrait exploiter pour extraire l'hélium-3.
Alors, utiliser l'hélium-3 pour produire de l'énergie, M. Hanet, est-ce qu'on sait comment faire, du moins théoriquement?
Oui, par des réactions nucléaires. Alors, les réacteurs nucléaires actuels qui fonctionnent, qui produisent 16% d'énergie électricité mondiale, utilisent des réactions de fission. On casse des noyaux d'uranium. On pourrait imaginer qu'un jour, il sera possible d'utiliser les réactions de fusion. Au lieu de casser des noyaux, on va unir des noyaux légers et là aussi, on va dégager de l'énergie.
C'est ce que vous essayez de faire dans le sud de la France où vous êtes à Cadarache, là, bientôt, avec ce projet ITER.
Tout à fait. Alors, le problème de ce genre de réacteur qu'on essaye de développer, c'est qu'il faut porter les combustibles à 10 fois la température du centre du Soleil. Pour la réaction de fusion la plus facile, hein, qui n'est pas celle de l'hélium. Et pour l'hélium, il faudrait plutôt porter ces combustibles à peu près 40 fois la température du centre du Soleil. Ça fait à peu près 600 millions de degrés.
Et ça, on ne sait pas faire?
Pas encore. Déjà, 150 millions de degrés, on a un peu des difficultés. Et alors, pour passer à la combustion, à la fusion de l'hélium-3, il faudrait monter encore plus haut en température.
Quel est l'intérêt d'utiliser l'hélium-3 si un jour on arrive à le faire?
Alors, les réacteurs de fusion en général ont de grands avantages par rapport à d'autres types de production d'énergie. Les combustibles sont quasiment inépuisables, en tout cas pour certains combustibles de la fusion. On peut les extraire de l'océan ou de la Lune ou des atmosphères, donc des géantes gazeuses. Le gros avantage aussi, c'est qu'ils ne produisent pas de gaz à effet de serre, donc pas de risque sur le climat. Il n'y a pas de pollution non plus émise par ces réacteurs. Et puis, ils produisent des déchets radioactifs, hein, on a une partie des réacteurs qui sont activés. Mais on peut imaginer qu'au bout d'une période de refroidissement de ces déchets d'une centaine d'années, on peut réutiliser, recycler ces matériaux pour construire de nouveaux réacteurs. Ça serait vraiment intéressant. Alors, l'avantage de l'hélium par rapport à la réaction, par exemple, qui utilise le deutérium et le lithium, c'est qu'on aurait moins d'activation des matériaux. Et donc, on pourrait recycler les matériaux encore plus vite, hein, que la centaine d'années qu'il faut utiliser pour laisser refroidir les matériaux. Donc, ça permettrait de recycler plus rapidement.
Sauf qu'on est bien loin du jour où ça pourra se faire, où ça pourrait être rentable d'aller chercher l'hélium-3 sur la Lune.
Alors, si on extrayait l'hélium de la Lune, pour fournir toute l'énergie électrique de la planète, il faudrait extraire à peu près 200 tonnes d'hélium-3 sur la Lune. Et il faudrait creuser, en fait, la Lune sur 3 mètres, sur des surfaces qui ne seraient pas négligeables du tout. Alors, le kilo d'hélium-3 ainsi produit coûterait à peu près 1 million de dollars. Donc, c'est quand même un coût assez considérable. Mais malgré tout, ça serait rentable, en gros rentable. Alors, on pourrait remplacer cet hélium-3 par du deutérium et du lithium, dont les coûts seraient plutôt de l'ordre de la dizaine de dollars, comparé aux millions de dollars le kilo. Hein. Donc, les combustibles seraient beaucoup moins chers sur Terre, mais ils produiraient des déchets radioactifs qui dureraient, hein, qu'on recyclerait seulement au bout de 100 ans.
Alors, le mot de la fin pour M. Éon, notre auditeur, Jean-Marc Canet, c'est peut-être de lui dire, en théorie, c'est une belle idée, mais il reste à mettre tout ça en œuvre et c'est pas demain la veille.
Voilà. Alors, ceci étant, les efforts sont fournis par toute la communauté mondiale, c'est-à-dire que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, l'Europe, les États-Unis travaillent ensemble pour mettre au point cette nouvelle forme d'énergie qui est la fusion. Et on peut espérer que toute la moitié de l'humanité, quasiment, unie ensemble, arrivera à résoudre le problème. Sans doute d'abord sur la fusion deutérium-lithium, mais pourquoi pas un jour deutérium-lithium-3. Et là, on aura d'énergie jusqu'à la fin de l'humanité, puisque dans quelques milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge. Eh bien, ça sera la fin du monde, mais on peut espérer que la fusion fournisse de l'énergie jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est vraiment l'énergie durable, si un jour elle fonctionne.
Ben écoutez, Jean-Marc Canet, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions.
Et merci à vous.
C'était Jean-Marc Canet, qui est physicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en France, et qui est collaborateur du projet ITER, ce grand réacteur thermonucléaire qui est actuellement en construction dans le sud de la France. Alors, si vous avez, vous aussi, des questions de science, vous pouvez nous les poser par téléphone. De la région de Montréal, vous faites le 514-597-7166. D'ailleurs, au pays sans frais, 1-800-752-9050, puis aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer cette première heure avec cette semaine Marie-Dominique Beaulieu. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin au Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour nous parler d'une vieille histoire, l'histoire du sel dans l'alimentation.
Eh oui.
Il y en a trop en Amérique du Nord, au Canada, on le sait, mais c'est une vieille histoire, ça fait longtemps.
Ah, mais il y a du nouveau
oui.
sur le sel, oui.
Formidable.
Et, dans le fond, ce qu'on pensait, c'était que seulement les personnes qui avaient certains problèmes de santé, hypertension artérielle, maladie rénale ou cardiaque, qui devaient faire attention au sel. Mais une étude publiée par l'Université de Californie vient déboulonner ce mythe.
Mm-hmm. On va y venir dans 2 secondes, mais il faudrait rappeler d'abord pourquoi le sel, ce que fait le sel.
Voilà.
La nécessité du sel, d'abord.
Oui.
Et ce qu'il fait de mal aussi.
Quand il y en a
oui.
trop.
Alors.
Donc, le sel, comme tous les nutriments, c'est essentiel à la vie. Donc,
d'abord.
L'idée n'est pas qu'il ne faille pas du tout en avoir. Il constitue, en fait, une partie de notre sang, entre autres, et puis des liquides dans lesquels baigne notre cellule et contribue à maintenir une pression qu'on va appeler pression osmolaire.
C'est le nom scientifique.
C'est ça. Qui est nécessaire à tous les échanges, je dirais, entre nos cellules et au maintien de la tension artérielle aussi.
Donc, nécessité de prendre du sel.
Voilà.
En
trop grande
et
quantité.
Et en prendre trop, qu'est-ce que ça fait?
C'est ça. Donc, oui. en trop grande quantité, en fait, le principal mécanisme, c'est qu'il contribue à augmenter la tension artérielle, la pression artérielle
oui.
dans nos artères, parce que, en fait, pour garder la même concentration osmolaire, on va retenir de l'eau parce que notre système ne peut pas être trop salé. Donc, on va retenir de l'eau, on va diluer ce fameux sel. Mais ceci va augmenter la tension artérielle, va aussi augmenter la pression dans notre rein, qui est notre filtre,
oui. hein,
et qui d'ailleurs, son rôle est entre autres de métaboliser ce sel-là. Et à long terme, ça va vraiment donner des problèmes d'artériosclérose, donc maladie coronarienne, cardiovasculaire, cérébrovasculaire, les accidents vasculaires cérébraux, et aussi des maladies rénales à proprement parler à la longue.
Et ça, c'est bien étudié, bien démontré aussi. Oui.
Oui. D'ailleurs, le Japon, oui. dont la diète traditionnelle est très riche en sel, avec la sauce soya et tout, en fait, était le champion des pays industrialisés pour les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, depuis là, des lunes. Bon, et voilà, il y a des seuils à ne pas dépasser, et il n'y a pas que le Japon qui le dépasse, en fait.
Oui.
Et en fait, notre diète nord-américaine est parmi aussi les diètes où il y a beaucoup d'apports en sel, surtout par les aliments préparés. Donc, ce qu'on recommande actuellement, c'est de limiter la consommation quotidienne quotidienne de sel à 5,8 grammes ou en équivalent de sodium, qui est un des composants du sel, à 2300 mg de sodium.
Oui.
Bon, avant l'âge de 40 ans, et même après 40 ans, on conseille d'en avoir un petit peu moins, d'en consommer un petit peu moins.
Et on est au-dessus de ça, oui.
Or, ouais. La diète nord-américaine est de 10,4 grammes, presque le double.
Presque le double, oui.
Pour les hommes et de 7,3 pour les femmes.
Mm-hmm. Alors, vous avez dit du nouveau. C'est l'étude, oui. une étude faite par l'Université de la Californie.
Oui, tout à fait, qui a étudié les conséquences de cette exposition d'un point de vue de la population, donc mm-hmm. pas juste pour des gens qui ont des problèmes de santé. Et ils se sont dit, mais si on arrivait à réduire le sel à l'apport, le réduire ne serait-ce que de 3 grammes par jour, qu'est-ce que ça aurait comme impact? Alors, ils ont donc fait des modélisations. Là, faut comprendre que ce sont des modélisations mathématiques, mais qui ont été vérifiées par d'autres équipes, où ils ont, sur une population d'Américains âgés à partir de 35 ans jusqu'à 85 ans, modéliser si on arrivait à réduire l'apport quotidien de 3 grammes.
Oui.
Et ils ont même ensuite vérifié si un scénario moins drastique de 1 gramme par jour aurait des effets. Alors, les résultats, honnêtement, m'ont impressionné et sont impressionnants. Une réduction de 3 grammes de sel par jour dans l'alimentation, oui, aurait le même impact que de réduire de 50 % le tabagisme, de réduire l'indice de masse corporelle de 5 %. En fait, ça préviendrait jusqu'à 60 000 nouveaux cas de maladie cardiaque.
C'est incroyable.
60 000 infarctus annuellement et 40 000 AVC, accidents vasculaires cérébraux, annuellement.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Oui. Et même le scénario progressif de 1 gramme par jour.
Là, on est dans les petites diminutions.
Oui, mais mis en place sur une dizaine d'années, aurait le même impact que ce qu'on fait actuellement quand on traite l'hypertension artérielle. Donc, les médicaments qu'on donne, oui.
Mais cela dit,
comment y arriver?
Comment y arriver? C'est la grande question.
C'est la grande question. D'abord, il faut redire que la plus grande partie, 75 % vient des aliments dits préparés.
Oui.
Donc, que ce soit les soupes, les charcuteries, tous les aliments congelés qu'on peut acheter. En fait, on ferait grâce de faire la liste, là. Et dans certains pays, déjà, ça c'est intéressant, pour ça c'est faisable, certains pays ont réalisé l'importance de cela. Et en particulier, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Finlande et le Japon ont déjà implanté une politique de réduction de 3 grammes de sel par jour d'exposition avec l'industrie agroalimentaire de ces pays-là. Mm-hmm.
Et ça marche?
Et ça marche. Mm-hmm. En fait, on a des résultats du Royaume-Uni qui a réussi à réduire cet apport quotidien de 10 % en 4 ans. Donc, il visait 3 grammes et il a réussi déjà
d'atteindre
en 4 ans seulement.
C'est quand même remarquable.
C'est quand même remarquable.
Mm-hmm.
Et ceci s'est fait sans réduction des ventes de ces aliments-là, parce que c'est bien sûr la crainte de l'industrie. Et en fait, il y a des études qui montrent que les consommateurs s'habituent très vite à la réduction de sel et qu'en fait, les papilles gustatives s'ajustent en dedans de quelques semaines, voire quelques mois seulement, pour redonner l'impression d'un goût qu'on aime. C'est donc possible d'implanter une approche populationnelle.
Ça se fait.
En travaillant
c'est possible
là-dessus.
Et on a la preuve, oui.
Bon, il faut dire qu'au Canada, déjà, on a l'étiquetage maintenant. Donc, on peut lire.
C'est déjà un petit pas.
C'est déjà
avant.
Un petit pas qui nous donne un peu le renseignement de pourcentage de l'apport quotidien recommandé en sel, en particulier dans l'alimentation. Mais c'est sûr qu'il faudrait aller un petit peu plus loin.
Oui. Et personnellement, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait maintenant consommateur?
Comme consommateur, oui. Ben, on fait attention, faut être vigilant. Bon, les aliments très riches en sel sont bien sûr toutes les croustilles de tout genre, les charcuteries, viande froide, souvent les sauces, la sauce soya, en particulier, bien sûr, quand on lit, c'est quelque chose. Une cuillerée à table, c'est 50 % de son apport quotidien une cuillerée à table de sauce soya.
Okay.
Tous les sels qu'on peut rajouter dans les épices à barbecue sont souvent très salés. Les repas congelés, toutes les viandes préparées peuvent être assez salées.
Donc, remplacer le sel par des épices, par exemple, ça pourrait être une
bonne
idée.
Oui, tout à fait. Et faire la cuisine soi-même, donc être contrôler plus facilement ce qu'on met comme sel dans notre alimentation.
Marie-Dominique Beaulieu, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Ce soir à la télé de Radio-Canada, 18h30, c'est Découverte qui présente la série Terre, la grande aventure de la vie, une série exceptionnelle en 10 épisodes. Ce soir, donc, deuxième épisode sur les reptiles et les amphibiens.
Mais d'ici là, vous restez à la radio pour les nouvelles et pour notre deuxième heure. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours à l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors au menu de cette deuxième heure, les troubles d'apprentissage, un reportage de Chantal Srivastava. La variole à Montréal en 1885, d'après un très bon documentaire de Jefferson Lewis que j'ai visionné cette semaine. Et pour finir, l'auteur de la semaine, l'anthropologue Guy Gauthier, qui a publié « Secret d'ossement, la science au service des énigmes de l'histoire ». C'est aux éditions EDP Sciences et c'est Hugues de Roussan qui l'a interviewé. L'AQTA, l'Association québécoise des troubles d'apprentissage, tenait cette semaine à Montréal son 35e congrès annuel. C'était une belle occasion de voir comment la science peut venir en aide à tous ceux, à toutes celles qui peinent à apprendre. Chantal Srivastava.
Et ils sont très nombreux, vous savez Yannick, parce que les troubles d'apprentissage touchent, estime-t-on, environ 15% de la population. Alors, à l'échelle d'une classe, ça veut dire 2, voire 3 enfants. Alors, cette semaine, à ce congrès, il y avait 1500 personnes qui, durant 3 jours, ont parlé de tous ces enjeux, des enseignants, bien sûr, mais aussi des orthopédagogues, des conseillers pédagogiques, des psychologues, de même que des neuropsychologues. Et c'est d'ailleurs avec un neuropsychologue que je vous propose de commencer ce survol des thèmes abordés cette semaine. Il s'appelle Dave Ellenberg. Il est professeur au département de kinésiologie de l'Université de Montréal. Il est également directeur et fondateur de la clinique d'évaluation neuropsychologique et des troubles d'apprentissage de Montréal. On l'écoute.
Il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne savait pas quoi faire avec les jeunes qui réussissaient moins bien. Souvent, on mettait ça sur le dos des parents, des enseignants, du jeune lui-même, et le jeune m'a décroché. Aujourd'hui, pour un parent, c'est de tout faire afin que le jeune puisse réussir et avoir le mieux pour sa réussite. Donc, le parent désire en connaître plus, désire aller chercher de l'aide. Et c'est comme ça que de plus en plus de jeunes ont la chance, au moins, qu'on puisse comprendre l'origine de leurs difficultés.
Alors, ces origines-là, qu'est-ce qu'on sait justement sur ce qui amène un enfant dans une salle de classe à moins bien fonctionner qu'un autre? Qu'est-ce qui est caractéristique, qui est toujours là et comment on mesure ça?
On développe pas un trouble d'apprentissage. On vient au monde avec un trouble d'apprentissage. Le trouble d'apprentissage, en fait, même le nom, le mot trouble d'apprentissage est un terme clinique, un terme médical, hein, qui est désigné par l'Organisation mondiale de la santé pour définir un trouble qui est d'origine neurologique et qui est permanent. Donc, on est avec le trouble d'apprentissage. Et donc, le jeune qui a un trouble d'apprentissage, dépendamment de l'origine, l'origine peut être la dyslexie, trouble spécifique de la lecture, la dysorthographie, trouble spécifique de l'orthographe, le trouble du déficit de l'attention, qu'on soit ou pas hyperactif, et ainsi de suite. Donc, ce jeune-là qui a un trouble d'apprentissage va moins bien réussir à l'école. Il va avoir du mal à suivre le rythme. Dès la maternelle, dès la première année, il va commencer à avoir des échecs et va cumuler les échecs. Et souvent, au niveau des comportements, lorsqu'on réussit moins bien, qu'on ne se sent pas valorisé, on ne se sent pas bon, on se sent moins intelligent, mais c'est des comportements plus agressifs ou plus repliés sur soi-même. Donc, c'est un jeune qui, à la fois, ne réussit pas bien ou n'atteint pas les attentes, et aussi a des manifestations au niveau de son comportement. C'est comme ça qu'on peut l'identifier. Mais il faut faire bien attention. C'est pas parce qu'un jeune ne réussit pas bien, et c'est pas parce qu'un jeune aussi a des problèmes ou des manifestations de comportement inadéquat qu'il a nécessairement un trouble d'apprentissage. Ça peut être d'autres choses, ça peut être d'autres causes. Donc, il faut toujours s'attarder, arrêter et aller investiguer, aller plus loin, faire une évaluation complète, une évaluation globale des fonctions du cerveau, des capacités d'apprentissage, des capacités d'adaptation sociale, affective, et de voir, de trouver l'origine. Est-ce que c'est un réel trouble d'apprentissage, un problème d'origine neurologique ou autre?
La médicalisation, le fameux Ritalin. Des parents ont l'impression de nos jours qu'on a très vite le réflexe de la pilule. On a un problème, on essaie de faire un diagnostic et rapidement, on va dans cette voie-là. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui se demandent, est-ce qu'on surmédicalise trop, ce qui est une difficulté avec laquelle il faut peut-être apprendre à vivre?
Oui. Certains parents se posent cette question-là, pas tous. Hein? Il faut comprendre que pour le trouble du déficit de l'attention, qu'on parle d'un jeune qui soit attentif, mais calme, pas nécessairement hyperactif, ou un jeune qui est hyperactif, dans les deux cas, la médication est le seul traitement reconnu qu'on sait présentement qui peut aider le jeune. Mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde, premièrement. C'est à peu près 60 % des jeunes qui réagissent bien, qui vont profiter de la médication, et même pour les jeunes chez qui cette médication-là fonctionne, ça ne fait pas des miracles non plus, là. Ça peut corriger 30, 40, 50 % du problème. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne connaît aucun autre traitement. Oui, il y a plein de gens qui proposent tout plein de choses, des stratégies alternatives, là, je les ai toutes entendues, mais la science présentement nous indique qu'il n'y a rien d'autre qui est efficace. Ce que je prône, c'est une intervention globale où la médication rentre vraiment en dernier plan. Ce que je veux, c'est des parents qui se mobilisent, des enseignants qui se mobilisent. On fait des changements dans nos habitudes de vie. L'activité physique, un des volets de mon programme de recherche, c'est l'activité physique et les fonctions du cerveau. Oui, c'est une autre goutte dans notre verre d'eau. L'alimentation, une alimentation équilibrée, sommeil et en classe, asseoir le jeune en avant de la classe, complicité avec l'enseignante. Quand on a tout mis en place et on voit où que ça nous amène et que le jeune, après tout cela, à cause de son déficit d'attention, n'est pas en contact avec l'information qui est présentée en avant de la classe, n'arrive pas à intégrer, à apprendre. Mais on fait quoi? Est-ce qu'on laisse l'écart, le fossé se creuser? Le but de la médication, c'est de donner toutes les chances à l'enfant. Et je pense que ça vaut la peine d'être tenté, sachant qu'il n'y a pas de miracle.
Le neuropsychologue Dave Ellenberg, donc, qui est professeur, chercheur à l'Université de Montréal. Alors, ce qu'il faut dire, Chantal, c'est qu'en plus de mieux connaître le cerveau, de mieux connaître son fonctionnement, bien, on en sait aussi davantage sur les fondements psychologiques de l'apprentissage.
Et ça, Yannick, c'est la spécialité de Michel Le Bourassa, qui est professeur à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Il y a quelques années, elle a publié un livre intitulé « Le cerveau nomade », une référence au fait que notre cerveau n'est pas statique, bien au contraire. Selon Michel Bourassa, si on connaît mieux les styles d'apprentissage, on peut éviter bien des problèmes ou en tout cas faciliter la vie des élèves et aussi de leurs enseignants. Alors, premier élément à considérer, c'est de savoir si on fait davantage appel à des ondes situées dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit de notre cerveau. Une situation qu'on a tendance à schématiser en disant que quelqu'un est auditif ou visuel, mais c'est pas aussi simple que cela parce que notre cerveau étant nomade, il oscille entre ces deux pôles. Et ce n'est pas tout parce que dans la vie, on oscille aussi entre l'avant et l'arrière de notre cerveau et aussi entre le haut et le bas. Alors, Michel Bourassa explique plus en détail comment tout cela peut se traduire dans une salle de classe.
On sait que le cerveau vers l'avant, ce sont les aires davantage motrices et vers l'arrière, ce sont les aires sensorielles qui s'y trouvent. Un élève peut être beaucoup plus centré vers l'avant et donc devoir essayer pour apprendre. Ici, on lui donne des consignes en amont en lui disant « Non, non, attends, je te montre comment faire. Voici les consignes. » Il ne suivra pas l'explication. Il va même devenir probablement assez turbulent parce qu'il ne comprend pas tant qu'il n'a pas essayé. Alors que l'élève tout à fait à l'arrière, lui, a besoin de voir la démonstration, de la revoir, de la faire rejouer dans sa tête. Ici, on le fait passer à l'action trop vite avant qu'il ait pu évaluer sur base sensorielle, on sait les aires arrière sont plus sensorielles, quelle est la nature de la situation, il n'arrive pas à passer à l'action. Puis on a le troisième axe, qui est l'axe au bas, qui est beaucoup plus centré sur qu'est-ce que la situation évoque pour moi. Si je me trouve tout en haut, donc plus on pourrait dire de façon métaphorique dans le néocortex, je vois plus quelle est la règle, quelle est la consigne, quel est le principe, quel est l'élément important qu'il faut absolument que je retienne et que je respecte. Alors que si je me trouve tout en bas, je vais être beaucoup plus « Ah oui, j'ai déjà vu ça avant. » Ça évoque quelque chose, soit de positif, soit de négatif, et selon, j'accepterai de m'engager ou non dans la tâche.
Michel Bourassa, donc, qui est professeur en sciences d'éducation à l'Université d'Ottawa et auteur du livre « Le cerveau nomade ».
Elle me disait, Yannick, qu'un enseignant a tout intérêt à savoir où il se situe sur ces trois axes schématisés selon la tâche qu'il a à accomplir afin de s'assurer qu'il sait comment faire pour rejoindre tous ses élèves en portant bien sûr une attention particulière à ceux et celles qui ont des difficultés d'apprentissage. À noter que l'efficacité de sa méthode a été validée en classe au primaire, au secondaire, au collégial et même en Belgique.
Cela dit, Chantal, dans quelle mesure toutes ces connaissances sur le cerveau, sur l'apprentissage, dans quelle mesure c'est mis vraiment en application dans les salles de classe, c'est la question. Hein?
Et c'est là la question. Alors, bien sûr, il faut se donner les moyens, il faut prendre le temps, ne serait-ce que pour que les enseignants puissent suivre les formations. Un autre problème, c'est qu'une fois que la formation est terminée, souvent les enseignants retournent en classe et reprennent rapidement leur vieux pli, si on veut, parce qu'ils n'ont pas de soutien. Sauf que, quand on s'en donne la peine, ça donne des résultats, comme en témoigne ici Muriel Leduc, enseignante en maternelle, qui utilise depuis 2002 une méthode qui s'appelle la forêt de l'alphabet. On l'écoute.
Je l'utilise depuis 2002. Ça se résume à différentes capsules qui vont durer en moyenne de 15 à 20 minutes par jour. Je travaille avec les enfants le son de la lettre, son nom. Il y a une histoire qui va avec ça pour raconter la lettre. Il y a également une gestuelle. Alors, les enfants qui ont de la difficulté au niveau de leur mémoire, vraiment, vont être capables au niveau physique de pouvoir l'assimiler. Alors, on a des gestes qui vont avec chacun des sons. Ça aide énormément. C'est un ajout que j'ai pu faire à mon enseignement qui est vraiment bénéfique pour tous les élèves.
Et ça s'appelle donc la forêt de l'alphabet. On a entendu Muriel Leduc, enseignante en maternelle.
Et ça, c'est une méthode dont l'efficacité, Yannick, a été validée scientifiquement, qui a été mise au point sous la supervision de Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Elle nous explique ici que derrière ces histoires et ces mimiques associées aux lettres de l'alphabet, il y a toute une science.
En fait, il s'agit d'un programme de prévention des difficultés d'apprentissage en lecture à la maternelle qui repose sur l'état des connaissances scientifiques actuelles qui nous dit que, d'une part, on doit aller chercher le meilleur des approches de lecture intégrée et, d'autre part, d'aller chercher le meilleur des approches plus explicites au niveau du code alphabétique et des lettres.
Ça veut dire quoi, ces deux types d'approches pour quelqu'un qui sait juste lire et qui connaît pas ça? Qu'est-ce qu'il faut savoir à ce sujet-là?
Bien, qu'il faut raconter des histoires aux enfants, faire des jeux autour des mots avec les enfants, mais en même temps les aider à découvrir le code alphabétique puis à établir des relations entre les sons à l'oral puis les mots à l'écrit.
Alors, la forêt de l'alphabet, s'inspirant, vous le disiez, Mme Brodeur, de ce que la science nous a appris, fait ça. Alors, la science nous a appris quoi? Qu'il fallait un savant dosage entre le ludique, l'histoire et l'association un son, une lettre?
D'une part, elle nous a dit ça, puis elle nous a dit qu'à la maternelle, les enfants qui apprenaient à connaître le nom et le son des lettres apprenaient à être capables également d'entendre dans les mots les phonèmes, chacun des sons d'un mot. Donc, dans « lac », on n'entend pas que « lac », mais on entend « l'ac ». Puis l'enfant qui connaît plusieurs mots de vocabulaire, puis l'enfant qui connaît la correspondance entre ce qui existe à l'oral et l'existe à l'écrit, cet enfant-là va avoir plus de chances de réussir son apprentissage de la lecture. Puis c'est capital parce qu'à la fin de la deuxième année, si l'enfant maîtrise pas bien la lecture, ça sera toujours difficile pour lui de réussir à apprendre à lire. Or, à la maternelle, jusqu'à maintenant au Québec, on n'était pas trop au clair à savoir est-ce qu'on doit finalement faire ce type d'activité-là qui est un peu plus explicite, systématique, bien que ludique. Puis, en même temps, est-ce qu'on doit le faire sur une base régulière? Or, les résultats qu'on a, des différentes études qu'on a menées jusqu'à présent en contexte québécois, notamment en milieu défavorisé, nous montrent que malgré un excellent programme en première année, si les enfants ont participé aux activités de la forêt de l'alphabet qui est implantée par les enseignantes de maternelle, à la fin de la première année, on réduit de plus de moitié le nombre de non-lecteurs dans les classes. Donc, c'est vraiment majeur, puis ça permet à ce moment-là que les orthopédagogues puissent intervenir vraiment auprès de ceux qui ont des besoins particuliers. Puis, on voit que ceux qui résistent, c'est vraiment ceux qui ont des troubles d'apprentissage, notamment avec le développement du volet orthopédagogique de la forêt de l'alphabet. Donc là, il nous reste pas 12 % d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage, 3 à 6 % il y en a beaucoup moins. Puis là, on a justement des hypothèses à propos justement de problématiques en neuropsychologie. Puis ça va nous amener justement à travailler avec des collègues qui sont neuropsychologues. Puis éventuellement, à l'UQAM, on a un projet en neuroéducation avec l'achat de tomographes infrarouges qui vont nous permettre d'intervenir, puis en même temps de vérifier les effets que ça pourra avoir au niveau du fonctionnement cérébral de façon à pouvoir mieux identifier quelles sont les problématiques de ces élèves-là, puis éventuellement ajuster les interventions à leur égard.
Monique Brodeur est doyenne de la Faculté des sciences et de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Elle participait cette semaine au congrès de l'Association québécoise des troubles d'apprentissage où vous êtes allée. Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie, Yannick.
Qu'il se cache dans vos cheveux pour vous sucer le cuir chevelu ou qu'il préfère les vêtements sales et le reste de votre corps, vous avez affaire au même type de poux. C'est la conclusion de chercheurs français et américains qui ont analysé les codes génétiques de poux de tête et de poux de vêtements pour conclure qu'ils sont indiscernables. Il s'agit donc bel et bien de la même espèce, ce qui met fin à un débat qui durait depuis des années. Des travaux sur le terrain ont aussi démontré que les poux de tête peuvent, dans des conditions précaires, s'adapter au reste du corps et devenir des poux du vêtement. C'est ce qui expliquerait que les poux de vêtements apparaissent de temps en temps dans des endroits où ils étaient jusqu'alors inconnus, quand les conditions sanitaires se dégradent. Ces parasites ont d'ailleurs provoqué des épidémies meurtrières dans le passé, de typhus notamment. Selon des chercheurs, ces découvertes montrent qu'on ne peut pas espérer se débarrasser des poux de vêtements sans éliminer les poux de tête, ce qui s'est avéré impossible jusqu'à présent.
Les étudiants dentistes de l'Université Showa à Tokyo peuvent dorénavant s'exercer sur un robot qui réagit comme un être humain. Anako est une femme robot humanoïde qui pousse un cri de douleur quand l'étudiant fait une mauvaise manœuvre et qui peut gémir et dire « j'ai mal » et qui peut aussi tourner la tête sans prévenir. Et lorsque l'intervention dure trop longtemps, elle s'endort et a du mal à garder sa bouche ouverte. Anako possède une bouche pleine de dents et de capteurs qui correspondent aux zones sensibles. Elle a une langue qui remue, elle peut saliver et elle peut aussi répondre aux questions de l'étudiant en raison d'un dispositif de reconnaissance et de synthèse vocale. Mais contrairement aux vrais patients, Anako ne proteste pas et elle est toujours prête à endurer toutes les tortures que peuvent lui infliger les apprentis dentistes. Et en plus, elle ne réclame pas d'image ni de brosse à dents à la fin de la séance.
Même si dans certains pays, les forêts continuent de disparaître à des taux alarmants, la déforestation a tout de même ralenti au cours de la dernière décennie. C'est le constat que vient de faire la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ainsi, au cours des 10 dernières années, 13 millions d'hectares de forêts ont disparu dans le monde, soit l'équivalent d'une superficie grande comme le Costa Rica. Une perte importante, soit, mais c'est tout de même mieux que les 16 millions d'hectares perdus au cours des années 90. À noter des améliorations qui ont été observées au Brésil et en Indonésie. Des programmes de plantation d'arbres en Chine, en Inde et aux États-Unis, de même qu'au Vietnam, contribuent également à bonifier ce bilan. Cela étant dit, l'Amérique du Sud et l'Afrique ont pour leur part accusé les plus fortes pertes annuelles de forêts au cours de la dernière décennie. Plus de 900 spécialistes de 178 pays ont participé à l'édition 2010 de ce bilan qui paraît tous les 5 ans.
Et maintenant, fermez bien les yeux, ouvrez grand votre imagination. Je vous emmène au cinéma pour voir à la radio un documentaire qui sortira ces jours-ci au cinéma ONF de Montréal et qui raconte une histoire vieille de 125 ans.
Montréal, 1885. La ville de quelques 200 000 habitants est un baril de poudre en attente d'une étincelle. Dans la nuit du 28 février, les Montréalais bien nantis fêtent l'hiver dans une mascarade en patins sous des feux d'artifice. Un jeune médecin du nom de Thomas Roger est appelé par un responsable du Grand Trunk Railway. On lui demande d'examiner un contrôleur tombé malade dans le train en provenance de Chicago. Les craintes de Roger se confirment. Le contrôleur, George Longley, est atteint de la variole, surnommée la mort rouge.
Lui, il est reparti 3 semaines plus tard, retournant à Chicago sans jamais savoir, au moins on ne sait pas s'il a su, que c'est lui, le patient zéro, qui l'a amené ça à Montréal. Mais c'était Pélagie Robichaud qui était la première morte de cette épidémie de 1885.
Donc une employée de l'Hôtel Dieu.
Un employé de l'Hôtel Dieu. Et ça, c'était, elle est morte le 1er avril, il y a 125 ans.
Jefferson Lewis, cinéaste et auteur du documentaire « La variole, anatomie d'un fléau ». Ce fléau qui tombe sur Montréal va prendre des dimensions tragiques.
5 jours après le décès de Pélagie, sa sœur, Marie, est prise d'une violente fièvre. En moins de 24 heures, on diagnostique chez elle la variole hémorragique, la forme la plus virulente de la maladie. Elle se propage à l'intérieur du corps et liquéfie littéralement les organes. Les personnes qui en sont atteintes implorent la mort, qui survient rapidement. Le virus a commencé à se répandre.
On s'est rendu compte qu'en 1885 et dans toutes les épidémies qu'on a regardées depuis, qu'il y a une espèce des stages. Donc, la première, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. C'est un peu, on nie tout. Ensuite, on se rend compte que c'est là et on essaie de faire une espèce de cover-up. On va cacher le nombre, on va prier que ça disparaisse.
Vous vous rappelez, par exemple, que le conseil de ville de Montréal, enfin l'équivalent, à un moment donné, se réunit pour parler de ça et met les journalistes dehors, littéralement.
Oui, tout à fait, parce qu'ils ne voulaient absolument pas que les gens commencent à paniquer. Et ils ne savaient pas comment réagir si la variole était arrivée, comment c'est arrivé. L'hôpital ne voulait absolument pas être blâmé d'avoir accepté ce patient. Donc, il y a eu une période où tout le monde espérait que ça allait juste disparaître. C'était pas le cas, donc suit la prochaine étape qui est la panique.
Le comité d'hygiène est forcé d'admettre qu'une épidémie de variole se propage dans la ville.
Vraiment, de janvier, février, mars, avril, il y avait des petites remontées, des petites redescentes. Ils avaient rouvert l'hôpital des varioleux. C'est vraiment au début de l'été quand tous les gens sortent dehors pour les parades, pour le Saint-Jean, pour des funérailles de l'évêque de Montréal. C'était dans les foules que tous ceux qui étaient malades étaient contagieux. Bref, c'est avril, mai, juin, ça commence à monter d'une façon extrêmement troublante. Et c'était déclaré une épidémie.
Au sein de la communauté anglophone, les éditoriaux des quotidiens et le clergé exhortent à la vaccination. Il serait difficile de faire autrement. Dans la rue, les citoyens s'arrêtent pour comparer les cicatrices de leur vaccin. On n'en fait pas autant chez les francophones. Les éditorialistes diminuent l'importance de l'épidémie de variole en la qualifiant d'hystérie anglophone. Les prêtres n'en parlent même pas en chaire.
Le coût de vaccination était 1 $. Donc, si tu étais un travailleur dans l'Est de Montréal avec 10 enfants, ça voulait dire que 2 semaines, et tu gagnais 1 $ par jour. Donc, le salaire d'une journée complète de 12 heures pour vacciner un de tes enfants. Ces gens-là vivaient trop près de la famine pour pouvoir se payer de vacciner leurs enfants. Donc, ils espéraient que c'était quelque chose qui était passagère. Et c'est pour ça, quelque part, que le taux de mortalité était si haut dans les communautés pauvres, catholiques et francophones. À 90%, c'était des enfants en bas de 10 ans.
Jeter le blâme aux immigrants, c'est loin d'être nouveau. En 1885, les nouveaux venus en ville sont en grande partie des Canadiens français qui ont quitté la campagne pour s'établir à Montréal à la recherche d'une vie meilleure. Ils travaillent pour la plupart dans les manufactures appartenant des anglophones.
There are political issues in Canada that have been dividing English and French for generations. And now you've got a disease issue.
Du côté francophone, c'était la Minerve qui s'opposait à la vaccination et qui appelait d'ailleurs la variole le mal des Anglais, qui est venu par un Américain de langue anglaise. Et chez les anglophones, le journal le plus violent a été le Herald contre les Canadiens français. Le Herald est tombé tout de suite dans le racisme.
L'auteur d'une lettre anonyme dans un courrier du lecteur propose une solution rapide au problème de la variole.
Que tous les capitalistes anglophones, manufacturiers et autres employeurs de main-d'œuvre se débarrassent de leurs employés francophones et ne gardent que les anglophones qui sont vaccinés et qui n'ont pas peur de l'eau et du savon.
La tradition, si on peut dire, se veut que c'est les pauvres, les plus pauvres, les plus démunis qui sont toujours blâmés, qui sont souvent le plus frappés et aussi blâmés pour d'être les... comme les Juifs dans les temps médiévaux étaient blâmés pour la peste noire, la peste. À cette époque-là, c'était des familles de fermiers francophones qui arrivaient de la famine de la campagne du Québec, qui arrivaient à Montréal cherchant un emploi et qui étaient le plus dévastés par la variole à cause de la manque de vaccination. Et donc, à qui on a blâmé? Les éditoriaux dans les journaux anglais ont été très clairs. Il faut juste renvoyer tous les travailleurs canadiens français qui savent, puis les remplacer avec des Anglais qui savent comment se laver avec du savon et de l'eau.
Lundi 16 novembre, Louis Riel, trouvé coupable de trahison, est pendu. Les citoyens sortent dans les rues. Un vent de protestation souffle sur Montréal. Riel est l'un des nôtres, clament les orateurs. Sa mort, c'est notre mort. Le jour de son exécution, on rapporte 20 victimes de la variole. Presque tous des enfants. Le plus jeune a 1 an et 1 mois. Le plus vieux, 9 ans et 6 mois. Malheureusement, Riel retient toute l'attention. Les enfants ne retiennent l'attention de personne. À la fin du mois des morts, on sonne encore le glas pour ceux que l'épidémie a emportés.
Bilan de cette épidémie de variole à Montréal?
Bilan, une personne sur 10 infectée un taux de mortalité probablement 6 000. Si on dit 1 sur 10, ça, aujourd'hui, ça serait comme 200 000 personnes, imaginez, qui sont des victimes de ça. 6 000 morts. Je pense que les relations entre français et anglais sont abîmées d'une façon qu'il n'y aurait pas de... Ça prendrait des années et des années, et peut-être encore, pour réparer le crevasse qui s'est formé entre les deux.
Il n'y a pas de signe que le mystérieux virus est apparu au Canada. Mais développement troublant, on apprend...
Nous sommes aujourd'hui plus proches d'une pandémie de grippe que nous ne l'avons jamais.
2003, lorsque le SRAS a explosé.
West Nile virus. Last year effect.
Il s'agit là de la prochaine pandémie.
Alors, Jefferson Lewis, on va sauter de... On va venir à notre époque, 125 ans plus tard, parce que votre film mêle entre les moments où on raconte l'épidémie de Montréal de 1885, mêle des séquences, toute une histoire où on imagine que la variole arrive à Montréal aujourd'hui. Cette fois, ce n'est pas un contrôleur de train qui l'amène, c'est quelqu'un qui travaille dans les transports aériens. Vous avez imaginé une épidémie de variole aujourd'hui? Est-ce que ça a du sens d'imaginer ça? La variole à Montréal en, disons, 2010?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que autant la ville de Montréal que la province de Québec, que le fédéral, que toutes les agences internationales de santé, en tous des plans préparés, et dans le cas du fédéral canadien, ils ont 7 millions de doses de vaccins anti-variole. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens qui sont dans la planification, la préparation des épidémies éventuelles, croient que c'est au moins une possibilité.
Donc, on peut penser que la variole, c'est plausible, c'est pas impossible que la variole arrive dans une ville comme Montréal. Quand vous faites dans votre scénario cette variole qui arrive à Montréal aujourd'hui, ça donne quoi en quelques mots?
Bien, je pense que beaucoup des choses qu'on a vues en 1885, on ne sait pas. Est-ce que ça va se répéter? Pour nous, c'était variole ou quelque chose d'autre d'aussi sévère. Est-ce que Montréal est prêt? Ce que tout le monde dit, c'est que si nos hôpitaux, si nos salles d'urgence sont déjà bondées, si notre système médical est en si piteux état, même un petit grippe peut transformer les hôpitaux, peut les paralyser. Imagine qu'est-ce qui arrivait si c'était quelque chose de plus sévère. Et c'est tous ces gens-là qui sont en médecine qui nous disent que c'est absolument certain qu'une épidémie s'en vient. C'est l'histoire de l'homme.
Mais on va vous dire qu'on a des moyens modernes, médicaux, d'organisation, de surveillance, etc., qui nous permettent quand même de réagir différemment, non?
Je pense qu'il y a... Ça dépend de quelle vitesse ça bouge et de quoi il s'agit. La grippe, c'est quelque chose qu'on connaît. Depuis beaucoup d'années, on a eu des expériences avec des épidémies de grippe. Donc, on est très préparé pour ça. Mais on ne sait absolument pas qu'est-ce qui se passe. Si on regarde les prochaines choses qui viendraient, ce n'est pas nécessairement une grippe. C'est peut-être quelque chose qui est en train d'être pondu au milieu du désert, au milieu en Afrique, en Asie, quelque part, peut-être au nord canadien ou dans le sud, Amérique du Sud, et qui va, ce qui arrive souvent, ça va sauter d'une créature à l'homme.
Et on l'a vu d'ailleurs pour le SRAS aussi à Toronto, il n'y a pas longtemps.
Tout à fait. Donc, on était chanceux avec le SRAS, c'est-à-dire qu'il y a juste 40 personnes qui sont mortes. Mais c'est pas parce qu'ils ont réussi à trouver un vaccin que ça s'est arrêté. C'est à cause de toutes sortes d'autres mesures.
Jefferson Lewis, bien sûr, entre le moment où vous avez tourné votre film et le moment où il sort aujourd'hui, là, il y a eu une épidémie, une pandémie de H1N1, la célèbre grippe H1N1. Finalement, qui ne s'est pas avéré aussi dramatique qu'on pouvait le craindre. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, comme cinéaste, qui vous êtes intéressé à cette épidémie de grippe, de variole à Montréal? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout cet épisode H1N1?
Ben, c'était hallucinant. J'étais en train d'écrire la narration pour le film et je me levais le matin puis je regardais les journaux, regardais la télévision, écoutais la radio et ce que je voyais c'était vraiment exactement les répliques que je venais d'écrire pour notre scénario contemporain. Aussitôt que j'entendais quelqu'un de santé publique dire « tout est sous contrôle », je disais « oh non, il ne faut pas dire ça, il ne faut jamais dire ça, c'est jamais sous contrôle ».
Certaines scènes de notre scénario sont de la spéculation. Sur le nombre de décès, le nombre de personnes contaminées, sur les réactions des gens ou les erreurs qui seraient commises. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'une épidémie ou une pandémie quelconque est attendue. Serons-nous prêts quand elle surviendra?
Quand on me demande pourquoi j'ai voulu passer tant d'années à faire un film sur ça, moi, je suis de l'avis que quelqu'un d'autre plus intelligent que moi a dit, ceux qui ne connaissent pas le passé sont destinés à le répéter. C'est pour ça que j'ai fait le film. Je pense qu'il faut regarder dans le passé pour... Sinon, qu'est-ce qu'on a pour se préparer pour l'avenir?
Le cinéaste Jefferson Lewis, auteur du documentaire « La variole, anatomie d'un fléau ». Je l'ai rencontré dans le très beau musée des Hospitalières à l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est précisément l'endroit où se sont passés les tout premiers épisodes de l'épidémie de variole qui a frappé Montréal il y a 125 ans.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
L'auteur de la semaine, il s'appelle Guy Gauthier, il a écrit un livre qui s'appelle « Secrets d'ossements ou la science au service des énigmes de l'histoire », un livre paru aux éditions EDP Sciences. Guy Gauthier est professeur d'anthropologie au Collège Marie-Victorin de Montréal. Hugues de Roussan s'est entretenu avec l'auteur qui nous raconte comment l'anthropologie judiciaire arrive à faire « parler » entre guillemets les squelettes et à en faire de véritables témoins des événements grands ou petits de leur temps. Passionné d'anthropologie depuis son enfance, Guy Gauthier nous montre comment les techniques de plus en plus sophistiquées de l'anthropologie judiciaire permettent de reconstituer des drames, comme par exemple celui de l'OTS, l'Ordre du Temple solaire, on s'en rappelle, d'identifier aussi un simple citoyen disparu depuis plusieurs années, ou de traduire en justice un criminel de guerre comme Klaus Barbie, et de résoudre, ou de mieux comprendre en tout cas, des énigmes historiques qui soulèvent les passions.
L'anthropologue cherche à répondre aux quatre grandes questions suivantes. Depuis combien de temps la personne est-elle décédée? Quel était son âge au moment du décès? Qu'est-ce qui a occasionné le traumatisme? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déterminé la cause de la mort? Quelle était l'identité de l'individu à l'état squelettique?
La science a évolué très rapidement depuis quelques années. Est-ce que l'anthropologie judiciaire a suivi le même rythme d'évolution ou on est encore un peu à la traîne? Si on prend par exemple la science de l'anthropologie judiciaire il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui.
Elle a beaucoup, beaucoup évolué. Prenez par exemple au début des années 70 à Sherbrooke, M. Réal Picard était porté disparu. 30 ans plus tard, au début des années de l'an 2000, il y a un monsieur qui achète un boisé dans la région de Drummondville dans le but d'y construire une maison. En faisant de l'excavation pour construire un lac artificiel, il a découvert un squelette. Il y avait une cage thoracique qui était présente sur place. Il y avait un arbre qui poussait dans la cage thoracique. En coupant l'arbre, on savait qu'un cercle était égal à une année. Donc, on savait que le squelette était là depuis une trentaine d'années. On a fait une radiographie du crâne. On a demandé à la Sûreté du Québec de fournir aux anthropologues judiciaires les photographies de tous les gens portés disparus depuis une trentaine d'années au Québec, de sexe mâle, âgés entre 40 et 45 ans. On a reçu une douzaine de photos. On a fait ce qu'on appelle la congruence des traits faciaux et des traits crâniens. Donc, en superposant une radiographie du crâne, une photographie prise du vivant des gens portés disparus, congruence des traits faciaux et des traits crâniens au niveau de l'orifice laissé par le nez, l'orifice laissé par les yeux, le menton et le sinus frontal et l'os de la joue qu'on appelle l'arcade zygomatique.
Est-ce que cette technique, là, justement, de la reconstitution du faciès et de la boîte crânienne, est-ce que la technologie moderne, l'informatique, les ordinateurs, est-ce que ça a permis d'avancer beaucoup dans la certitude qu'on a vraiment pu identifier quelqu'un?
Aujourd'hui, nous avons des logiciels hors pair au niveau de la reconstitution informatique faciale et crânio-faciale, des logiciels là, vraiment de up-to-date, là.
Ce qui permet d'avoir une identification hors de tout doute?
Oui.
L'anthropologie judiciaire sert aussi à bien d'autres choses. Par exemple, permet de résoudre des énigmes historiques. Est-ce que l'anthropologie judiciaire a permis de résoudre cette grande question qui soulève les passions? Napoléon a-t-il été ou non empoisonné?
Non, on n'a pas encore réussi non plus. Dans le cas de Napoléon, il y a autant d'arguments en faveur de l'empoisonnement à l'arsenic qu'en faveur du meurtre à l'arsenic. Il aurait pu s'empoisonner lui-même.
C'est ça, il a pu avoir une intoxication ou il a pu avoir un empoisonnement. On ne sait pas vraiment, on n'a pas pu déterminer lequel des
non.
deux.
Non, parce qu'à cette époque-là, il y avait de la tapisserie dans les chambres et certains motifs de la tapisserie, on avait recours à l'arsenic pour faire certains motifs, utiliser certaines teintes de peinture de la tapisserie comme telle. Et on savait que cette époque-là, on chauffait au charbon également. Donc, il aurait pu s'empoisonner lui-même sur une certaine période à l'arsenic. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé des traces d'arsenic dans les cheveux de Napoléon. Donc, bref, il y a autant d'arguments en faveur de la thèse du meurtre que de l'empoisonnement accidentel ou sur une certaine période.
D'autres cas historiques comme Toutankhamon, on a dit tellement de choses sur la mort de Toutankhamon, ce pharaon-là qui est mort relativement jeune, 18 ou 19 ans. Est-ce que l'anthropologie judiciaire a permis de savoir qu'est-ce qui est arrivé?
Dans le cas de Toutankhamon, on a recueilli autant d'arguments en faveur du meurtre de Toutankhamon et en faveur également de la thèse « Une mort accidentelle ». Donc, on est autant partagé entre la thèse et l'antithèse. Un des problèmes que nous avons, lorsque son tombeau était découvert dans les années 20, il se peut que lors de la manipulation, certains ossements auraient pu être brisés.
D'où la difficulté d'avoir une conclusion irréfutable.
Parce qu'en principe, lorsqu'on découvre un ossement, on observe des traces de traumatisme. Si la plaie est cicatrisée, ça veut dire que la fracture, par exemple, est survenue du vivant de la victime et que la fracture a eu le temps de guérir. Si la plaie n'est pas cicatrisée, ça signifie que la fracture est survenue quelque temps avant la mort de la personne. Donc, l'anthropologue doit déterminer est-ce que c'est relié, est-ce qu'une relation causale de cause-effet avec le décès, simplement circonstancielle. Dans les cas de Napoléon, puis dans les cas de Toutankhamon, il y a autant de thèses en faveur d'une école de pensée qu'en faveur d'une autre école de pensée.
L'anthropologie judiciaire permet des fois même jusqu'à réécrire l'histoire. Par exemple, on parle de cet homme de Kennewick qu'on a retrouvé sur la côte ouest américaine et qui daterait d'avant l'arrivée des Amérindiens.
Au niveau du carbone 14, on a démontré qu'il daterait de plus de 9000 ans le squelette de l'homme de Kennewick. Au niveau squelettique de son squelette comme tel, on s'est aperçu qu'il avait autant de caractéristiques mongoloïdes, ce qu'on appelle les peuples asiatiques, les peuples autochtones, les peuples amérindiens. Il avait également des caractéristiques un petit peu de peuple japonais, également des caractéristiques caucasoïdes du centre de l'Europe. Chaque groupe aux États-Unis essaie d'y trouver un peu ses arguments juridiques.
Pour d'éventuelles revendications.
C'est ça. Comme les Amérindiens, les peuples autochtones essaient de démontrer qu'au niveau squelettique, anatomique, il y avait plus de caractéristiques mongoloïdes que négroïdes ou caucasoïdes comme tels. Nous-mêmes, aujourd'hui, qui nous sommes d'origine française, lorsqu'on va décéder, si un jour on fait l'analyse de notre squelette, on va se rendre compte qu'on a 65 % de caractéristiques anatomiques associées à notre groupe à nous, qui est majoritaire caucasoïde. Je parle des Blancs. Et l'autre 35 % c'est un mélange de mongoloïdes et de négroïdes. Pour une personne qui est d'origine haïtienne, ça serait le contraire. 65 % de caractéristiques négroïdes et 35 % de caractéristiques mongoloïdes ou caucasoïdes.
Est-ce que ça, c'est vrai pour tous les êtres humains?
Sauf quelques exceptions. Par exemple, un peuple de l'île du Pacifique où tous ses ancêtres n'auraient jamais quitté l'île et lui-même qui n'a pas eu de mélangeage ou de métissage en différents groupes. Il y en a peut-être dans des petites îles de l'archipel des îles Hawaï ou peut-être dans d'autres archipels d'îles polynésiennes. Des petits groupes de génération en génération, ils étaient une espèce endogamie, c'est-à-dire se reproduisant entre eux.
On parlait d'histoire et de l'anthropologie judiciaire qui permet de régler certaines énigmes ou de corriger certaines impressions ou certaines vérités absolues. Je voudrais revenir à Napoléon et sa grande armée lorsqu'il a envahi la Russie avec plus de 500 000 hommes. Certains parlent même de 600 000 hommes. Il est revenu avec 12 000. Il y en a qui parlent d'une grande défaite militaire, mais ce n'est plutôt pas une grande défaite biologique.
En effet, les anthropologues judiciaires ont réussi à démontrer que la majorité des membres de l'armée de Napoléon étaient décédés à cause du froid, premièrement, à cause de la fièvre des tranchées, puis également à cause de différentes bactéries, soit le pouls, ou est également décédé de typhus et de typhoïde. Par exemple, au début des années 90, en Lituanie, on a retrouvé dans une fosse commune plus de 3000 squelettes. Le premier réflexe qu'on a eu, c'est de penser nous sommes en présence d'un génocide. C'est pas parce qu'on découvre 3000 squelettes dans une fosse commune, c'est nécessairement un génocide. On s'est aperçu que tous les squelettes étaient assis en position fœtale ou en position accroupie. Donc, c'est un signe qu'ils sont morts de froid. Et tous les squelettes avaient encore leurs vêtements. En faisant l'analyse des vêtements, on s'est aperçu qu'il y avait des boutons de manchette à l'effigie de Napoléon. Donc, on savait que c'était des soldats de l'époque de 1812, de l'armée de 1812, qui étaient sur le chemin en direction de Moscou. Puis dans les vêtements, au niveau de l'analyse dentaire, on a retrouvé des traces de la bactérie du pouls, puis également des traces au niveau de les ossements et du reste de typhoïde, de typhus. Donc, on a démontré que la majorité avait péri à cause de des raisons paléopathologiques. L'anthropologue essaie principalement d'identifier les victimes autant de catastrophes humaines que de catastrophes naturelles. On essaie également d'identifier les victimes et dans plusieurs cas, l'anthropologue judiciaire est appelé à témoigner devant le tribunal international qu'on appelle le TPI pour démontrer qu'il y a eu génocide humain. Prenez le cas du Rwanda du Kosovo. Les témoignages d'anthropologues judiciaires ont permis de faire condamner plus de 400 personnes pour crimes envers l'humanité. À partir de l'analyse des ossements humains, l'anthropologue judiciaire a démontré qu'on est en présence d'un génocide.
Actuellement, l'informatique, c'est un nouvel outil pour l'anthropologie judiciaire, l'ADN, le profil génétique. On s'en va où? C'est quoi la prochaine étape?
En radiologie, on a fait des percées immenses. Tous les squelettes qu'on découvre aujourd'hui, on va prendre de très nombreuses radiographies. À partir des radiographies, on va analyser toutes sortes de micro-traumatismes, toutes sortes d'autres micros, soit des micros ou des macro-traumatismes. On va également passer le squelette dans des scanners également.
Mm-hmm.
Et là, on va observer de très, très nombreuses traces de traumatismes. Par exemple, prenez le cas de l'éruption volcanique en l'an 79.
Le Vésuve.
Nous savons que l'éruption volcanique a fait plus de 15 000 morts. L'anthropologue est intervenu. On faisait beaucoup la radiologie, puis beaucoup l'observation visuelle également. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'ossements qui étaient déformés et d'ossements qui n'étaient pas déformés. Il y avait des ossements qui étaient très usés également. On en a déduit que ceux qui avaient des ossements déformés et usés, qu'ils achetaient des ossements de les esclaves. Alors que ceux qui avaient des ossements non usés ou non déformés, c'était les ossements de ceux qui appartenaient à la noblesse, à la bourgeoisie à cette époque-là. Également aperçu que ceux qui étaient de la noblesse, de la bourgeoisie, portaient différents bijoux selon leur classe sociale également. Donc, on était capable de reconstruire un peu le mode de vie puis de recueillir un peu l'histoire romaine de cette époque-là.
Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que l'anthropologie judiciaire, c'est un peu l'art de faire parler les morts pour que leur témoignage puisse apporter quelque chose de nouveau?
Oui, on s'est aperçu également qu'on a retrouvé des traces de plomb dans les ossements de plusieurs victimes. Nous savons à l'époque qu'ils buvaient du vin en quantité industrielle. Et les bols qui contenaient le vin étaient fabriqués, entre autres, en plomb. Donc, un peu comme dans le cas de l'équipage de John Franklin dans l'Arctique canadien, il aurait pu s'empoisonner petit à peu au plomb également. Puis on a trouvé des traces de plusieurs autres maladies à cette époque, au niveau de l'analyse des ossements humains.
Il y a un cas particulier, historique, mais contemporain, c'est l'histoire de Klaus Barbie, qui a été identifié de son vivant, parce que normalement, l'anthropologie judiciaire, c'est une fois qu'on a un squelette,
en effet.
Mais lui, il a été identifié de son vivant grâce à des méthodes d'anthropologie judiciaire.
C'est mon cas particulier, c'est mon cas que j'affectionne particulièrement. Dans mon livre « Secret d'ossements », je décris 39 cas, autant historiques, internationaux que locaux. Klaus Barbie était un bourreau nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été à Lyon, dans une région située en France. 42 enfants avaient été déportés jusqu'en Pologne, exterminés pour la grande majorité dans le camp d'Auschwitz. En 1945, la Deuxième Guerre mondiale se termine. Klaus Barbie il travaille pour le service de contre-espionnage des États-Unis et par la suite se fait engager en Bolivie, en Amérique du Sud, comme conseiller militaire. Il devait enseigner aux gens de la Bolivie, entre autres, aux forces de l'ordre, aux forces policières, entre autres, différentes techniques d'interrogatoire, comment obtenir par la force certains aveux. Il avait changé son nom, il faisait appeler Klaus Ackmann. Au début des années 70, il était toujours présent en Bolivie. Il marchait sur la rue. Une femme qui était l'une des survivantes, une des rescapées d'Auschwitz, l'a reconnue sur la rue. Elle a dit « Vous êtes M. Klaus Berbinon, je suis M. Klaus Ackmann ». Elle a pris une photographie de Klaus Barbie. Elle était voir un anthropologue judiciaire en France. Elle lui a dit « Voici une photo de Klaus Barbie dans les années 20. Klaus Barbie durant la Deuxième Guerre mondiale et Klaus Barbie en 1970-1971. Pourriez-vous me dire que c'est la même personne? » Donc, l'anthropologue a utilisé des techniques qu'on appelle le vieillissement de la photo. On avait également retrouvé Klaus Barbie, malgré qu'il était très intelligent, avait oublié de faire disparaître son dossier médical de la Deuxième Guerre mondiale. Dans son dossier médical, on a également retrouvé une radiographie de son visage. Il avait été blessé au visage en Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a pris une radiographie du visage. On a pris la radiographie de son visage dans son dossier médical. On l'a juxtaposé une photographie de Klaus Ackmann des années 70-71, puis on a dit « ils ne font qu'un ». C'est exactement la même personne au niveau de la congruence des traits faciaux et des traits crâniens. Donc, on a dit que Klaus Barbie et Klaus Ackmann ne faisaient qu'un. Et par la suite, la France a demandé à la Bolivie d'extrader Klaus Barbie en France. La Bolivie a refusé. Il a fallu attendre pratiquement 12-13 ans plus tard, soit en 1983, qu'un régime démocratique ait lieu en Bolivie. La France, on dit à la Bolivie, on va vous prêter 10 millions de dollars si vous acceptez de nous livrer Klaus Barbie. Puis 10 millions de dollars, vous servez à mettre sur pied un régime démocratique. Puis il fut jugé crime envers l'humanité. Il fut condamné en 1987, puis il est décédé quelques années plus tard.
Est-ce que justement ces méthodes modernes, on parle des programmes informatiques, on peut parler aussi de l'ADN, le profil génétique des gens qu'on peut comparer avec les descendants ou les gens de la même famille. Est-ce que ça rend pas désuet d'autres méthodes qui étaient utilisées jusqu'à maintenant?
Non, ça vient simplement corroborer. On va prendre plusieurs techniques dans le but d'être sûr à 100% de l'identité de la personne. De nombreuses techniques. C'est pas juste une technique, c'est plusieurs techniques qu'on veut utiliser.
Je rappelle en terminant le titre du livre « Secret d'ossement » écrit par Guy Gauthier, paru aux éditions EDF Sciences et que maintenant on peut trouver en librairie au Québec. Merci beaucoup, M. Gauthier, d'avoir été avec nous.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin. Les journalistes Gaëlle Lucia Berdou, Gaëlle que nous remercions pour les belles mais trop courtes semaines passées avec nous. Merci beaucoup Gaëlle donc. Hugues de Roussan aussi et Chantal Srivastava. Au site internet, c'était Louis-André Martin. Chroniqueur, Marie-Dominique Beaulieu. Je vous rappelle comment nous poser vos questions de science. Il y a le téléphone de la région de Montréal, c'est le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays sans frais, c'est le 1-800-752-9050. Puis à la limite, il y a le courriel lumière@radio-canada.ca. Puis il y a aussi la bourse Fernand Seguin. La date limite pour la remise des dossiers, c'est le 6 avril, dans une semaine à peu près. Alors j'imagine les belles nuits d'écriture et de torture qui guettent nos concurrentes et nos concurrents. Ah, ça fait plaisir. C'est Yannick Villedieu donc qui vous parle et qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition des Années Lumière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.